Cela, ainsi, serait l'importance contemporaine de la tradition de la critique. Je suis une européaniste, et donc je m'engage, dans une sorte d'erreur intentionnelle, de Kant à Hegel, pour donner plus de corps au point que je veux montrer. Le sabotage affirmatif, rappelez-vous. Vous rentrez, et ensuite vous le tournez contre lui-même, contre sa propre intention. J'ai eu tellement de critiques et des critiques publiées de la part de spécialistes qui sont enchaînés, emprisonnés par leur disciplinarisation. Des critiques comme quoi mes arguments sont sous-démontrés. Bien sûr qu'ils sont sous-démontrés. Je fais une erreur. Et pour des raisons que je pose clairement sur la table. Mais c'est pas possible à comprendre pour eux. Donc, j'avance de Kant à Hegel pour donner plus de corps au point que je voudrais montrer, de la critique à la phénoménologie. Nous nous rappelons qu'il est inapproprié de traiter un philosophème comme un aratème. De traiter une unité philosophante comme une histoire. Cette, entre guillemets, erreur, quoi qu'il en soit, a été constamment faite avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et d'une certaine manière, le texte est en demande de ça. Faisons donc nous-mêmes cette facile erreur intentionnelle et trouvons dans la description de Hegel de l'émergence d'une autre conscience d'elle-même le moment de l'abstractibilité du genre. Rappelez-vous, à l'intérieur de l'entière idée de l'hétéronormativité de la reproduction contenant le monde. Et là entre en scène l'abstraction genre, rappelez-vous, à l'intérieur de ce tout qui est la culture humaine. La reproduction hétéronormée, elle contient le monde entier. Nous allons garder en tête que le moment de l'abstractibilité du genre est ce qui autorise l'accès à l'abstraction. C'est cet instrument, ou bien cette arme, qui dans le cours des siècles va permettre la rencontre de l'abstrait en tant que tel, le capital dans le XVIIIe siècle. C'est là que le thème du leadership des femmes, de l'égalité devant la loi, du fait qu'il n'y ait pas d'autre différence que celle de classe, commence à émerger. Le point ici, c'est que le genre, non reconnaissable comme premier mover, truc qui met en mouvement, est maintenant introduit comme tardif et amené par le mouvement de l'histoire. À partir de là, les études sur le pouvoir, d'abord homme-femme et puis après queer,
petit à petit,
c'est la production d'une avant-garde, quelque fragmentée ou quelle que soit leur particularité.
Or, moi, je suis intéressée dans tout le monde, pas juste dans l'avant-garde.
Je le redirai après.
La démocratie, c'est pour tout le monde, pas juste pour l'avant-garde.
Ainsi donc, je me réfère au large projet de ces philosophes masculins que j'ai invoqué de manière répétée, Kant, Hegel et Yeats, si vous pensez à lui comme un philosophe, un poète philosophe, intéressé à compléter l'avant-garde par l'éducation électorale. Répétant ici ce nécessaire moment de l'ignorance du genre, de ces basiques bienveillants sexistes.
Le projet, c'est l'éducation générale.
Un réarrangement non contraint du désir qui transforme l'égalité de genre et la démocratie en sens commun.
J'en ai parlé pour l'histoire des viols à Delhi. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Mais je voulais quand même le mentionner.
Comme nous nous réconcilions avec nous-mêmes à l'intérieur de cette complicité,
apprenant à combattre les institutions d'élite
avec leurs propres armes,
nous réalisons peut-être qu'on va pouvoir venir en aide à ceux qui se battent en dehors de l'académie.
Dans les rues, en propre intérêt justifié, seulement en fournissant le nécessaire moment d'autocritique et la protection du privilège de classe
qui vient précisément du fait qu'on passe de l'opposition à l'alternatif. Opposition dans la rue et cherchant une alternative au sein même de l'université.
La disciplinarisation, donc.
Je dis peut-être.
Parce qu'il y a une séduction à oblitérer la division persistante entre l'avant-garde qui combat
et le tout le monde qui n'est pas dans la rue.
Et donc, cette séduction est grande.
Seulement si cette complicité,
une fois pour toutes,
est comprise et conscientisée, enfin, est reconnue,
non comme une comédie, mais comme une farce,
pouvons-nous gagner le droit de l'appeler du sabotage affirmatif ?
C'est dans cet esprit que je regarde la page qui amène au texte sur le maître et l'esclave dans la phénoménologie de Hegel, où Hegel prépare le lecteur à cette histoire, pas en cherchant des détails d'intrigue à propos de femmes ou de queer pour imiter, en autorreprésentation, ce qui est l'habituelle pratique académique libératoire des deux côtés de la barrière. Je suis quant à moi sur la trace reconnaissable, je suis une vieille enseignante en études européennes, après tout, de complicité en vue de véritablement robustes sabotages affirmatifs.
Donc voilà, je vous montre le paragraphe, hein, et là elle montre un truc qui était très beau mais qui n'a pas été pris en photo et c'est bien dommage. C'est une page de Hegel.
Première image, page normale, et deuxième image, page complètement raturée, avec plein de notes de partout.
Et c'est sa traduction qu'elle a dû refaire de Hegel. Donc elle veut qu'il y ait la prochaine slide, et après elle veut revenir à cette page. Donc voilà son texte anglais. Donc pour montrer combien on doit prendre des notes et réfléchir là-dessus, vous voyez comment la traduction anglaise est mauvaise du texte. Même si vous lisez Hippolyte, donc la traduction d'Hippolyte, qui est meilleure que celle de Miller, et je dis avec beaucoup de respect pour la traduction, et c'est pourquoi je reste une comparatiste. La traduction doit toujours être vérifiée. Et donc je vais parler tranquillement de tout ça. Donc si on regarde la pratique de Hegel dans ce paragraphe crucial, et Fanon a lu ça dans le chapitre 7 de
Peau noire, masque blanc,
quand il tourne son dos à la négritude, dans le chapitre 7,
qui est celui généralement cité, le nègre et la reconnaissance, parce que les gens, en fait, ne se rendent pas compte de ce que Fanon fait là. Et je parlerai de son erreur intentionnelle juste en une phrase ou deux, quoique Fanon, en dépit de tous ses bienfaits, n'ait pas été exactement un féministe engagé. Donc si on regarde la pratique syntagmatique de Hegel dans ce paragraphe crucial, on découvre que l'épistémographe, c'est-à-dire l'image, du sujet qui progresse dans l'accomplissement épistémologique de la fin en savoir absolu,
du certainement à la vérité,
on découvre que l'épistémographe,
qui va de la certitude à la vérité, de Gewissheit à
Wahrheit,
là elle signale juste qu'il y a un umlaut qui s'est malencontreusement glissé dans son texte, et de là à Bewusstsein, la conscience, de simple état à être, de mot en « heit » à mot en « sein ». Et là, syntagmatiquement, c'est une écriture fantastique, c'est comme de la poésie. Syntagmatiquement, voilà ce qui se passe. Mot en « heit », avant ça, le sujet, la self-conscience séparée n'a pas émergé. Et donc nous émergeons des mots en « heit ». Même « Wahrheit », la vérité, c'est un mot en « heit ». Dans un mot sein, Bewusstsein. Pour entrer dans la syntagmata du gendrage, nous devons prendre une route complètement différente. Parce que le genre est un instrument d'abstractibilité si vieux que suivre sa trace implique de développer des procédés d'intimité critique, assez différents de la critique rationnelle. Ça marche avant la raison, un modèle qui existe en littérature comparée dans l'apprenance de la première langue. Je ne suis certainement pas en train de lire ou même d'essayer de lire la syntagmata du genre. Pour pouvoir entrer dans cette discursivité multilocalisée, je ne peux pas être l'oratrice privilégiée d'une conférence à la Sorbonne. C'est quelque chose dont nous nous souvenons toujours et mettons de côté, nous souvenant que cela nous a autorisé à le mettre de côté, etc., indéfiniment.
Je réentre dans Hegel en gardant ça dans un côté de ma tête.
Ainsi donc revenons à la comparaison entre l'histoire de Hegel et cette invocation nichée de la création du féminisme dans la révolution industrielle.
La conscience, Bewusstsein, est seulement un moment de l'épistémographe. Ce n'est pas ce qu'on comprend de manière ordinaire par conscience. Il ne s'agit pas d'une personne consciente. Ça contient à l'intérieur de lui la possibilité d'un objet, c'est ça l'idée de conscience ici, sujet-objet, qui contient à l'intérieur de lui-même la possibilité d'un objet, qui à ce stade est une self-conscience
en tant qu'objet,
qui
d'ailleurs n'a pas de ressemblance avec ce qu'ordinairement on reconnaîtrait comme tel.
Et le pouvoir des mots, self-conscience, combat cela, bien sûr. C'est une faute que vous faites quand vous lisez. Et les traducteurs font cette erreur. En tout cas, les traducteurs anglais. Et sans se rendre compte qu'ils vont dans une autre direction. Hegel est trop contre-intuitif pour la plupart des traducteurs.
Et le pouvoir des mots, dans le langage, combat ça, bien sûr.
Ça, c'est la double contrainte de philosopher comme son ennemi.
Pas juste le combat dans les rues, qui veut polariser, self-avant-gardiser, créer une dictature du subalterne, voulant alternativité plutôt qu'opposition.
En fait, et naturellement, l'épistémographe n'est pas seulement à propos du temps, c'est aussi à propos d'espace, une intuition spatiale. Et donc, ce n'est pas seulement sur la self-conscience, c'est aussi, prochaine étape, c'est de positionner l'altérité et la différence en le remettant à zéro. C'est ce que le texte d'Hegel dit dans le paragraphe qui précède la section sur le maître et l'esclave. Le sujet, ou bien le moi avec M capital, le sujet à ce stade ne peut rien faire, c'est une citation. Il est juste programmé pour nullifier tout par le programme du savoir absolu, de sorte qu'il n'y a rien d'étranger qui peut arriver. Le mouvement entier de la phénoménologie, avant ça, donc le height move par rapport au sign move, doit être nullifié de sorte que quelque chose arrive.
Si vous voulez transformer ça en une histoire historique, vous pouvez dire que c'est la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Seulement.
Ça doit être nullifié.
Et après, l'entière prochaine section commence. La raison.
Je dois aussi dire que Gramsci a fait une erreur absolument intentionnelle aussi. Au lieu de dire maître et esclave, il a dit maître et disciple, en parlant de la production de l'intellectuel subalterne. Voilà, les erreurs intentionnelles d'un côté de Fanon et de l'autre côté de Gramsci.
Cette affaire, quelque raciste et horrible que Hegel lui-même ait pu être, cet écrit de l'homme intelligent, en cette manière particulière, spécialement dans la phénoménologie de l'esprit, presque contre le fait lui-même de philosopher, a donné beaucoup de terreau pour du sabotage affirmatif à beaucoup de personnes. C'est un texte fort.
Donc voilà ce que dit Hegel, le sujet ne peut rien faire. L'aspect philosophique de ça, comme principe,
pris dans toutes ces doubles contraintes que j'ai indiquées plus haut,
ça doit donc devenir un rien.
Si vous en faites un récit, le personnage doit agir d'une certaine manière, et Hegel laisse de côté à la marge ce dangereux supplément qui pourrait annuler la philosophie. Pour voir un exemple caractérisé de cette « entre guillemets erreur », faut lire Franz Fanon à la fin de son « Peau noire, masque blanc » où il s'identifie au sujet hegelien.
En tant que féministe, nous devons...
À ce point, dans la transition du féodalisme au capitalisme, avec la mise en stade de l'émergence de la conscience,
psychologiser,
jouer avec le genre de la même manière que Hegel joue avec lui-même. Tout comme Fanon nous dit comment le lire avant qu'il entre dans Hegel.
Ici, j'essaie de voir comment le mouvement transgressif
dans le narratème, dans Hegel, me dit comment faire l'erreur du récit du genre, plutôt que juste la transition du féodalisme au capitalisme en tant que porteur de raison. Regardez-moi. Si dans Hegel, la fonction de la conscience est d'être capable de poser altérité et différence en se ramenant à zéro, ce déplacement paradoxal peut être comparé, de quelque manière erronée que ce soit, au mouvement initial de la lutte du genre, menant l'altérité et la différence à zéro.
Pour Hegel, quand cela se passe, l'espèce est séparée du flux général.
Dans les manuscrits économiques et philosophiques de Marx, il y a une différence entre espèce étant et la vie des espèces, species being and species life.
C'est notre moment hegelien.
Et quand vous lirez le passage de Hegel, vous verrez Hegel parlant d'une complète destruction et négation en vue de l'émergence de la raison, là où, si vous psychologisez, la destruction devient une reconnaissance.
Bon, on va pas le relire là, mais peut-être vous pouvez le regarder et comprendre ça. Ça a été totalement pas compris par Charles Taylor, par exemple. Charles Taylor qui parle de manière bienveillante à propos des minorités visibles, qu'il faut les reconnaître. Je trouve ça atroce, minorités visibles.
Ici, c'est pas une erreur intentionnelle.
C'est une faute pas intentionnelle. C'est une vraie faute de transformer la philosophie en récit et de dire que Hegel parlait de la reconnaissance.
Ce ne sont pas des reconnaissances réelles ou des destructions réelles, mais une séparation du flux de la philosophie.
L'épistémographe, de la manière dont il avance.
Et les espèces, en tant qu'elles tracent une histoire, au sens history, simplement empirique. La philosophie de Hegel engage dans ce dangereux auto-érotisme sa propre suppression dans l'histoire. Le dangereux chemin avec l'auto-érotisme de l'avant-garde, entre parenthèses dénié, si vous voulez une entrée légitime dans le plus élitiste carré de l'académie, restant précairement en dehors dans la machine à enseigner, et cette dernière phrase peut être une description du désir de légitimer le féminisme engagé à l'intérieur de l'académie, en sorte que ce soit honoré et reconnu par l'académie. Et c'est pas un mauvais désir. Mais on est de toute façon complice de toutes sortes d'autres choses. Donc, le dangereux chemin de l'auto-érotisation de l'avant-garde, dénié. Nous devons être dans le déni de cette avant-garde. Nous sommes supposément dans la rue, je veux dire. Je parlais juste à Pretoria. J'étais si contente que toutes les objections viennent de ces jeunes gens engagés dans la lutte contre le racisme ou sur les questions de genre, etc. Ils étaient là, à l'Université d'Afrique du Sud, au congrès des sciences sociales, habillés comme tout le monde, parlant ce langage, quand même voulant être dans le déni, de manière impensée et sincèrement, voulant nier cette avant-garde, parce qu'ils sentaient qu'ils représentaient les leurs, supposément qu'ils ne pouvaient pas être là.
Je ne critique pas ça, car ce sont des gens qui ont souffert très récemment, mais d'un autre côté, quand vous rentrez dans le désir de la disciplinarisation, on doit être capable de penser pas seulement à ce qui se passe au-dessus de soi, mais aussi ce qui se passe en dessous de soi. Bon, de toute façon, je répète, une certaine sorte de séparatisme se trouve dans Hegel
quand il fait allusion à l'émergence du capitalisme.
Bien entendu, ce récit lui-même est compromis quand on met la colonisation à l'intérieur. Mais je ne peux pas en parler ici parce qu'on ne parle pas de ça, on parle de féminisme.
Quand l'espèce est séparée du flux général des choses, le flux général des choses demeure non nommé par Hegel.
Mais à cause de l'implication textuelle, le flux est quelque chose qui peut s'appeler la vie dans le langage non philosophique. Comment est-ce qu'on peut dire que ça, ce contexte non nommé, c'est la vie ? Parce que tout le passage est écrit sous le signe, qui est mentionné deux paragraphes au-dessus.
An dem Leben.
C'est traduit en anglais par dans la sphère de la vie. Mais ce
An dem,
c'est de l'allemand quotidien. Ça veut dire dans la vie, en termes de vie.
C'est le signal que Hegel nous donne.
Qu'il suit un argument philosophique. D'un côté, il n'y a pas d'exemple humain, et de l'autre, il faut le comprendre de manière quotidienne.
Il y a une expression latine qui est le contraire, qui veut dire « sous les espèces de l'éternité », qui veut nous dire qu'on n'est pas dans l'empirique. Moi-même, j'y ai fait référence en 1997, parlant de la planète sous le signe de l'altérité plutôt que de l'éternité.
Hegel sous-entend que ça peut aussi être lu sous les espèces de la vie. Et donc l'histoire, elle apparaît aussi comme une erreur possible à faire
pour défaire la philosophie. À un plus haut niveau d'abstraction donc, dans notre translittération fautive de la philosophie en narration, nous pouvons appeler ça la séparation du genre dans un mode d'abstraction conscient de lui-même. Parce que l'utilisation non consciente du genre en tant qu'instrument d'abstraction débute à la création de la transaction entre le sacré et le profane, originairement. L'établissement de la nature humaine comme distinguée de la nature en tant que telle.